jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée comme tous les jours par Perrine Suquet avec Charles Deluermos et Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission au cours de laquelle je vais vous raconter avec mon invité une émission, une histoire criminelle bien sûr, pas tout à fait comme les autres. Alors je vais vous donner quelques petits mots d'explication, il s'agit de l'assassinat d'un curé de campagne, l'abbé Levé, à la fin du 19e siècle, dans le Val-de-Loire, dans le Cher. Une histoire banale, hein, celle d'un prêtre qui avait le tort d'aimer l'argent, qui avait amassé une petite fortune en pièces d'or, et ce que tout le monde savait dans le petit bourg dans lequel il vivait, 200 âmes à peine, Jussy le Chaudrier, 642 habitants aujourd'hui, j'ai vérifié ce matin. C'est un petit bourg qui est situé à une petite cinquantaine de kilomètres, on va dire, de la ville de Bourges. Et un jour de septembre 1881, l'abbé Levé quitte son presbytère très tôt le matin parce qu'il doit se rendre à pied à 4 kilomètres de là pour dire la messe basse de 8 heures dans l'église du village de Précy. C'est là que tout commence puisque personne ne reverra plus jamais l'abbé à l'issue de cette messe basse. Les paroissiens seront là, il va rentrer dans son village et en fait il n'arrivera jamais à nouveau à son presbytère. C'est le début d'un livre absolument passionnant que nous avons reçu qui vient de paraître aux éditions La Buinotte et son auteur est mon invité bien sûr, vous l'avez deviné, Françoise Bezet. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes enseignante et vous êtes...
J'étais.
Oui, enfin... oui, mais c'est comme les ministres, on le reste toujours un petit peu quand on a été enseignante. Et vous êtes en tout cas passionnée d'histoire et d'histoire rurale. Et vous avez donc consulté beaucoup d'archives pour écrire ce livre. On va en parler ensemble. On va pas aller jusqu'à dire que vous avez trouvé des témoins de l'époque. C'est 1881.
Difficile.
Très exactement. Oui, mais vous citez dans votre livre une certaine Paulette, une dame très âgée aujourd'hui, et en fait, elle connaissait cette histoire.
Oui, parce que la transmission orale a fait courir cette histoire jusqu'à nos jours, bon, avec beaucoup de modifications, d'éléments ajoutés, transformés.
Ouais, c'est-à-dire l'histoire qu'elle vous a racontée n'était pas tout à fait celle que vous avez trouvée dans les archives locales. Hein.
Pas du tout. Par exemple, elle était vraiment marquée. Et apparemment, cette phrase a traversé les ans parce que Rochelle, donc un des accusés, lorsqu'il a été arrêté, aurait dit...
Ce qu'on disait, le curé, on va bien le retrouver un jour.
Voilà,
quoi,
hein. C'est ça.
Et lui, qu'est-ce qu'il disait, Rochelle il disait,
Rochelle, mais surtout, lorsqu'on est venu l'arrêter, il s'est mis à trembler et on lui a demandé, mais pourquoi trembles-tu, Rochelle ? Et il semble que cette phrase est marquée.
Ah, pourquoi trembles-tu, Rochelle ?
Voilà.
Parce qu'il avait répondu, oh, le curé, on le retrouvera jamais.
Voilà.
Il avait une raison à ça.
Mais lorsqu'on est venu l'arrêter, et elle, Paulette, situe cela devant chez elle. Il était maçon, il aurait été en train de refaire du ciment devant sa maison.
D'accord.
Or, les archives nous disent qu'il a été arrêté alors qu'il était à la batteuse.
Voilà, bon. Donc, petite distorsion historique. Oui. Mais en tout cas, ce fait divers a profondément imprimé toute la région à l'époque. D'abord parce que la personnalité, évidemment, de la victime, un curé. Alors, je voudrais, avant qu'on en revienne à la disparition, aux recherches, à la découverte du corps, à l'enquête, au procès, etc. Je voudrais qu'on parle justement de l'ambiance de cette époque parce que vous nous parlez d'une France qui n'existe plus, dans laquelle, en fait, il n'y a pas encore de séparation de l'Église et de l'État, hein, c'est en marche, mais enfin, le curé est un notable, quelqu'un de très respecté, il y a l'instituteur, évidemment, au passage, vous dites qu'il y avait 80 élèves par classe,
oui, tout
quand
à
même
fait.
Pas rien, hein, pour ceux qui se plaignent aujourd'hui. Ouais.
Et ça, c'est en 1880,
oui.
Mais nous avons les lois de Jules Ferry sur l'école, qui la rend gratuite, bientôt obligatoire, et laïque,
oui.
Qui va amener parfois 200 élèves dans les classes. Oui. Donc les problèmes pour les municipalités qui vont devoir agrandir leurs bâtiments, qui sont déjà en général leurs belles maisons d'école, oui, voire en construire d'autres, mm-hmm, y compris dans certains hameaux.
Alors dans les notables, ben, y a le maire justement, et monsieur le maire, il y a le médecin. Le médecin, le pharmacien sont des gens importants. Ils jouent un rôle d'ailleurs dans l'histoire qu'on va raconter ensemble. Et puis, pour le reste, il y a des paysans, des éleveurs, des cultivateurs. On vit au rythme des moissons et au rythme aussi des bruits des artisans. Hein, il y a le maréchal Ferrand, parce qu'on se déplace à cheval.
Oui, ce sont des petits villages où il y a beaucoup de petits artisans. Donc je vais essayer de faire rentrer le lecteur justement dans chacune de ces petites boutiques. On verra les outils, on sentira presque les odeurs de tout cela. Bon, des artisans, des commerçants, c'est un village où il y a un boulanger. Aujourd'hui, hélas, il n'y a plus aucun commerce.
Voilà, il y a le drapier, on va se faire faire
ses habits.
Le tailleur d'habits, voilà, exactement. Et puis, il y a également le bistrot. On appelait ça comment à l'époque?
Le café, le cabaret même.
Alors là, évidemment, il y a des. Quand on a travaillé, et Dieu sait si on travaille dur à l'époque, on va boire des verres, quelquefois trop. On parle de l'actualité, des nouvelles du coin, et puis c'est là aussi que se répandent toutes les rumeurs, quoi, en fait.
Voilà, tout à fait.
Et la rumeur va jouer un rôle très très important
dans
cette affaire. Alors maintenant, je voudrais, s'il vous plaît, Françoise Bezet, qu'on présente, comme on le fait dans les romans d'Agatha Christie, le personnage principal, c'est la victime, c'est cet abbé Levé, qui est un homme assez particulier.
Alors c'est un homme assez particulier qui a eu une vie assez particulière aussi. Bon, il est natif d'un petit village de la Somme, Boves, mais il a eu une naissance dramatique, puisque ses grands-parents habitaient Pernois, dans la Somme, des marchands bouchers, donc déjà...
Des gens un peu aisés,
un peu aisés, voilà. Qui n'avaient qu'une fille, Sophronie, qu'ils espéraient bien marier à un beau parti.
Eh oui, sauf qu'elle a rencontré un beau prince charmant.
On ne sait pas qui. Toujours est-il que son ventre a commencé à s'arrondir.
Et qu'elle n'a pas osé en parler tout de suite,
voilà,
etc.
Voilà, mais quand son père s'en est aperçu, alors là, son honneur était bafoué. Ouais. Il a chassé sa fille en lui disant « Tu ne remets pas les pieds chez nous avec ton bâtard. »
Et alors, on a compris, évidemment, que le bâtard, l'enfant du péché, c'est le futur curé. Voilà. J'ai oublié son prénom au passage. Levé, l'abbé Levé.
L'abbé Levé, c'est Alphonse.
Alphonse Levé. Alors, c'est lui qui, à la suite de pas mal de péripéties, parce que sa mère va mourir assez vite.
Elle va mourir en couche.
Au moment de sa naissance.
C'était encore assez fréquent. Lorsque une mère mettait au monde un enfant, elle risquait sa vie.
Alors, on va le ramener aux grands-parents. Et puis, en espérant que... Voilà, ils acceptent d'élever cette enfant, ce qu'ils vont faire, mais ils ne vont pas lui dire la vérité. Il va la connaître très tard, je crois.
Il va la connaître quand il aura 12 ou 13 ans, quand le grand-père sera sur son lit de mort, et avant de partir, il dira la vérité.
Alors, voilà donc déjà, les débuts difficiles dans la vie de cet homme. Mais, il y a peut-être un lien d'ailleurs avec ce qu'on vient de dire. Pourquoi est-ce qu'il est radin ? Il a l'air d'être très très attiré par l'argent.
Tout à fait. Alors, il a été ensuite au petit séminaire d'Amiens. Et là, ça c'est une supposition. Bon, il y a un petit côté romancé aussi dans mon livre. Je pense qu'il a eu des difficultés avec les fils de bourgeois, sans doute. Mmh. Et il s'est juré...
Oui. On s'est moqué de lui, quoi.
On s'est moqué de lui. Oui. Et il s'est juré de devenir riche.
Ah, et il est devenu riche.
Et il est devenu riche, voire très riche, parce qu'il a tout de même acheté des terres, acheté des fermes. Bon, quand il va mourir, on va trouver beaucoup de louis d'or chez lui. Il a aussi des actions de la compagnie des chemins de fer, bon, divers titres de rente, enfin... Il est vraiment riche. Notre
mais vrai. Non seulement il est riche, mais il ne le cache pas. C'est-à-dire qu'il montre ses pièces d'or, ses louis d'or à qui veut les voir. Il les fait sonner dans sa main. Enfin bon. Et d'ailleurs, ce personnage, quand je dis qu'il y a beaucoup de rumeurs, on dira aussi, mais est-ce qu'il était vraiment bien dans sa tête? Parce que les gens le trouvent quand même, il est assez original. Comme
oui, certains disent qu'il a le cerveau un peu dérangé.
Alors voilà, tout ça, ça va jouer. C'était important à dire maintenant parce que ben, quand les gendarmes vont être amenés à venir à cheval, enquêter dans le coin, et quand le juge va avoir à mener l'enquête, ben, c'est la personnalité de la victime qu'il recherche et qui a subitement disparu un jour de septembre 1881. On va faire une pause, une première pause dans cette émission, et puis on va vous raconter ben, le jour de la disparition du curé.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Enquête sur le meurtre d'un curé de campagne au 19e siècle dans le Cher. C'est l'histoire que raconte dans son livre mon invité Françoise Bezet. Meurtre d'un curé, c'est le titre, avec ce sous-titre 1881. Autopsie d'un crime en Berry. Le livre est paru aux éditions de la Boinotte. Ou Bouinotte, pardonnez-moi. Voilà, ça y est, je commence à déformer le nom de l'éditeur. Ça ne va pas. Et alors, évidemment, vous avez compris que dans cette histoire, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de fichier automatisé, ni des empreintes génétiques, ni des empreintes digitales. Il n'y a pas d'experts à la télé. D'ailleurs, il n'y a pas de télé, évidemment. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas... Mais il y a des journaux et ils vont jouer, eux aussi, un rôle très important dans notre histoire. On va revenir tout de suite à ce jour de septembre 1881 où l'abbé Levé, pour le coup c'est Levé comme on dit très tôt, vers 6h du matin, parce que il doit partir à pied à 4-5 km de là, il va dire la messe basse et il a l'habitude de le faire. Hein. C'est donc en fait une journée comme les autres qui commence et il a dans son presbytère sa servante qui le couvre véritablement et qui pendant que monsieur l'abbé est parti faire ses affaires, faire ses messes, etc. Elle prépare un lapin en gibelotte qu'un braconnier lui a apporté. Hein, voilà l'ambiance. Bon, alors il y arrive à Précy. Hein. Précy, c'est le village d'à côté. Hein.
C'est ça.
Mmh. Il y arrive normalement parce qu'on sait rien de. Je sais pas combien de temps il met pour faire ses 4 km, monsieur le curé. Oui, pas très longtemps. Hein, de
non,
toute façon,
non.
Bon.
Oui, donc c'est. Tous les jeudis. Il va tous les jeudis et je pense que c'est important parce que pour les...
Oui, le jour du crime deviendra un élément clé de l'affaire.
C'est ça. Donc tous les jeudis, il va dire sa messe basse à Précy. Il porte une vieille soutane élimée. Hein. Il n'a pas mis ses vêtements de voyage. Mmh. Il porte aussi son chapeau, sa canne, mais il n'a pas pris sa montre ni son revolver qu'il...
Parce qu'habituellement, il porte, oui, parce qu'il y a une certaine insécurité, il faut bien le dire.
Hein. Oui,
donc il est courant d'avoir un revolver avec soi.
Tout à fait, ouais. Voilà. Et donc il prend un chemin de traverse.
Et il a très peu d'argent sur lui, c'est très important.
Et il n'a pratiquement pas d'argent, contrairement à son habitude, puisqu'il a d'habitude ses louis d'or dans sa poche qu'il prend plaisir à montrer, à faire étinceler au soleil sous les yeux des passants. Et il prend ce chemin de traverse, il rencontre les paysans qui sont déjà dans leurs champs, un petit berger auquel il donne des nouvelles de sa famille.
Bon, donc il y a un certain nombre de témoignages plus tard qui confirmeront que M. l'abbé était seul d'abord, que tout allait bien et que quand il est arrivé à Précy, il n'y avait aucune raison d'avoir des inquiétudes. Quoi.
Pas du tout. Donc quand il arrive à Précy, il y a une jeune maman qui l'attend parce que à l'époque, lorsqu'une femme a accouché, elle est considérée comme impure. Et pour avoir la possibilité de rentrer de nouveau dans une église, il faut que le prêtre fasse la cérémonie des relevailles. Et donc, il va faire cette cérémonie, moyennant quoi la jeune maman lui donnera quelques piécettes.
Voilà, quelques francs, quoi.
Voilà. Donc, il célèbre sa messe basse. Bon, la quête ne va pas rapporter grand-chose. Il met tout ça dans sa poche, puis repart vers Jussy.
Alors,
mais
c'est
il
n'y
arrivera pas.
C'est là, voilà, parce qu'on est le 15 septembre 1881, à l'heure du déjeuner, sa servante trouve étrange que monsieur le curé, qui aime bien, il aime bien l'or, mais il aime bien aussi
manger,
ce qu'il y a dans son assiette. Il n'est pas là, une heure après il n'est pas là, trois heures après il n'est pas là, donc elle échafaude plein d'hypothèses,
voilà,
mais qui ne tiennent pas la route, quoi.
Voilà, elle se dit, oh, oui. il est peut-être resté manger chez sa fermier. Oui. Voilà, enfin, elle essaie de trouver des raisons à son absence.
Et le soir, il n'est pas là. Et alors, il va se passer un événement quand même assez particulier dans la nuit. Parce qu'elle, elle commence à penser qu'il y a vraiment quelque chose de grave qui a pu arriver à monsieur le curé. Hein,
bon, elle est déjà toujours inquiète par le fait qu'il y a des sommes importantes au presbytère.
Ouais.
Et elle se dit que un jour, ça amènera un drame, cette
d'ailleurs,
chose-là.
D'ailleurs, elle a trouvé un jour, en faisant le ménage, dans la maison, dans l'endroit
dans le fruitier.
Où, le fruitier, une petite boîte métallique qu'elle n'avait pas vue avant, et quand elle a ouvert, c'était bourré de louis d'or.
Voilà.
Quoi, hein, bon,
voilà.
Quand même. Donc elle a peur.
Cette nuit, le soir, elle est déjà très angoissée. Elle se couche malgré tout et vers minuit, elle entend des coups frapper à la porte. Donc elle se lève, elle ne reconnaît pas la façon de frapper du prêtre. Alors quelqu'un lui dit « Ouvrez, ouvrez, je ne reconnais pas votre voix, je n'ouvrirai pas ». Et là, des coups sont frappés un peu plus fort. Elle commence à avoir vraiment très très peur. Elle met la grosse barre de bois derrière la porte, les parts. Et puis, il y a un coup de fusil.
Ouais.
Et plus rien.
Alors, ce coup de fusil va être entendu dans le...
Voilà, plus tard...
Quoi, on en reparlera.
On apprendra, en effet, que les gens du village ont entendu le coup de fusil, se sont levés, ont aperçu deux hommes, mais il faisait nuit noire, une nuit sans lune, et les deux hommes se sont enfuis, on n'a pas réussi à les reconnaître.
Voilà, alors donc, il y a cette journée d'incertitude, le lendemain, alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire par le menu, mais évidemment, on va s'inquiéter, il n'est pas là le lendemain, pas là le jour d'après, donc quand même 4 jours après à peu près, il y a des vraies recherches qui vont être entamées, on avertit évidemment les notables, le juge, le maire, bon, etc. On fait des recherches grâce aussi avec l'aide, on va dire, de paysans du coin, de gens qui connaissent particulièrement bien les chemins. Personne ne trouve aucune trace du curé. Est-ce que vous pouvez nous dire, on va le découvrir combien de temps après ? 5 jours après, je crois.
5 ou 6 jours après.
Dans quelles circonstances ? Parce qu'il a été tué, le malheureux, et enterré.
Oui. Alors, c'est un jeune berger qui ramène son troupeau de vaches à la ferme. Et sur le sentier, justement, de Jussy à Précy, les vaches brusquement s'arrête, flaire le sol et ne veulent plus avancer. Alors, il prend son bâton et il les fait malgré tout avancer, mais il regarde ce qu'il y a au sol et il s'aperçoit qu'il y a une tache sombre. Et il pense que c'est en effet du sang.
Voilà.
Mais il se dit, oh, c'est peut-être un animal qui a été tué ici.
Ouais.
Enfin, il regarde un peu aux alentours et il s'aperçoit que dans un roncier, les ronces ont été écrasées. Puis, il constate qu'il y a un trou dans ce roncier. Alors, il essaie d'y aller voir. Mais quand il va faire son témoignage, il dira « J'avais tellement de fièvre que je suis remontée aussitôt ». Et en effet, quand il va rentrer chez lui, il est brûlant de fièvre et il s'alite et il ne peut pas parler. pendant un certain temps.
Alors, il en parle dans sa famille. C'est comme ça que son père... Parce que les nouvelles vont beaucoup moins vite que maintenant. Il va falloir que le bouche à oreille dise dans toutes les fermes, vous savez ce qui s'est passé, le curé a disparu, mais mon fils, les vaches ne voulaient pas avancer, etc. Alors, il est tout à fait possible, j'anticipe un petit peu, il est tout à fait possible que ce garçon, ait été à l'endroit où se trouvait, à ce moment-là, le corps du curé. Sauf que, et ça on va vous le raconter dans quelques minutes, sauf que il va être découvert ailleurs parce que vraisemblablement les assassins sont revenus sur le lieu de leur crime et ont enterré le curé. Et c'est cette découverte macabre qui va être faite par ceux qui continuent les recherches.
Et l'heure du crime sur RTL.
Et l'invité de l'heure du crime aujourd'hui, Françoise Beuzet, à l'occasion de la publication de son livre « Meurtre d'un curé, 1881, autopsie d'un crime en Berry » qui est paru aux éditions de la Buinotte. Et quand on a reçu ce livre, Françoise Beuzet, tout de suite on s'est dit « il faut absolument qu'on parle de cette histoire parce que on est très loin de l'univers habituel de l'heure du crime aujourd'hui, avec tout le côté un peu clinquant et moderne. Bon, mais en même temps, on est là, on a toujours tendance à penser que dans le passé, les gens étaient un peu plus bêtes qu'aujourd'hui. Et en fait, ils n'avaient pas les mêmes moyens techniques, mais l'enquête, il n'y a rien à dire sur l'enquête que vous avez reconstituée avec les archives. Le juge, il se pose les bonnes questions. Les rumeurs, ça ne date pas que du 19e siècle. Et le procès d'assises, qui va durer 3 jours, sur les pièces réunies par l'instruction, donne finalement un verdict qui est acceptable. On n'est pas en train de parler d'une erreur judiciaire.
Non, je ne pense pas. Malgré tout, à l'étude de toute la liasse de l'enquête que j'ai pu trouver aux archives, je trouve qu'il plane un doute.
Alors, on va raconter, c'est pour ça qu'on va raconter pourquoi plane le doute. Alors, on cherche le curé, ça fait 4-5 jours qu'il a disparu, il y a ce gamin qui dit à son père, mais moi, j'ai vu les vaches ne voulaient pas avancer parce qu'il y avait du sang sur le sentier, je suis allé dans un trou là à côté dans les ronces, mais finalement, je me suis sauvé. Vraisemblablement, s'il avait continué, il aurait trouvé le corps du curé. Et donc, les recherches continuent, et il y a beaucoup de gens qui passent sur ce chemin. Donc, ce qui est extraordinaire, et ce qui va frapper d'ailleurs le juge de paix qui est appelé à mener l'enquête, qui vient d'où, lui ? Il vient de tout
à côté.
Le juge
de paix vient de Sancergues, puisque les deux villages font partie du canton de Sancergues.
Voilà, on est près de
Sancergues. Et qu'il y a une justice de paix.
Voilà, et près de la Charité-sur-Loire, etc. Voilà. Beaucoup plus connu aujourd'hui pour le côté touristique de la région que pour les crimes de sang. Et là, il va s'apercevoir, ce magistrat, que y a des gens qui sont passés là, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais noté la présence de ce sang. Et surtout, quelques jours plus tard, quelqu'un, alors qu'on est passé 100 fois sur cet endroit, on va dire, mais là, il y a de la terre qui a été fraîchement remuée, un petit peu sur le côté du chemin. On va creuser, mais pas beaucoup, et on va trouver le cadavre de ce malheureux curé. L'abbé Levé a été assassiné d'un coup de fusil dans la tête. Et c'est là où, à cette époque-là, il n'y avait pas l'institut médico-légal, donc celui qui faisait l'autopsie, c'était le médecin du coin qu'on allait chercher. Il fait ça avec les moyens du bord.
Sur l'établi du presbytère.
Voilà, avec évidemment, tout le monde vient voir. Enfin, c'est horrible, parce que ça fait plusieurs jours que c'est malheureux est mort, et il faisait chaud. On va quand même prélever un certain nombre d'éléments, comme les experts aujourd'hui, et on va les envoyer à l'expert. Alors, l'expert de l'époque, c'est le pharmacien.
C'est le pharmacien de Sancerre. Ah. Alors, il va tout de même constater que les petits morceaux de métal retrouvés dans le crâne du curé sont les mêmes que ceux que l'on a trouvés dans le gilet d'un des accusés.
Alors, parlons maintenant de ces accusés. Comment ça arrive aux oreilles des enquêteurs ? C'est-à-dire qu'ils font leur boulot, c'est-à-dire qu'ils interrogent tout le monde. Qu'est-ce que le jeudi 15, qu'est-ce que vous faisiez ? Est-ce que vous avez eu quelqu'un ? Est-ce que quelque chose d'inhabituel s'est passé, etc. Donc là, j'envoie tout le monde au livre pour le détail. Et ça va se focaliser sur deux personnes. Un jeune homme, 19 ans, infirme, très important pour la suite de l'histoire, qui se déplace en général avec une sorte de canne, avec un bâton, beaucoup de difficultés. Lui, c'est Murat, son nom de famille.
Voilà, c'est Félix Murat.
Et puis, un autre personnage qui a été vu, soit seul, soit en compagnie du fameux Murat, ce jour-là, qui lui a une bonne trentaine d'années, qui est un maçon.
Maçon, mais aussi journalier dans les fermes. Voilà.
Qui s'appelle Rochelle. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui avait frappé les gens? Le Murat, il a été vu le matin par quelqu'un un fusil à la main, quand même.
Voilà, le fermier qui habite tout près du lieu du crime avait vu, en effet, le jeune Murat, le matin, avant le passage du curé, avec un fusil. Bon, alors, il était allé le voir parce que il avait eu d'autres échos, comme quoi, ce pauvre Murat avait émis l'idée de se suicider. Alors, il s'est dit, il ne va pas mettre son geste à exécution. Mais en discutant avec lui, il s'était perçu que non, il braconnait.
Voilà. Et beaucoup de gens le faisaient parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui avaient du mal à se nourrir à l'époque. Bon, il est là, mais on va le revoir les jours suivants. Et puis après, des témoignages vont dire qu'il était là la veille. Donc, il traîne avec ce fameux Rochelle.
Ils sont très souvent aux alentours du lieu du crime.
Ouais. J'ai oublié de dire que on va trouver sur les lieux du crime une pelle et une pioche.
Voilà. Alors, elles serviront de preuve, mais entre guillemets, parce que c'est un enfant de 6 ans qui va témoigner du fait que ces deux outils sont les outils du grand-père Murat.
Voilà, en disant mais je l'ai vu et c'est ça.
Je les reconnais. Voilà. Alors qu'il y a d'autres personnes du village, notamment le forgeron qui répare assez souvent les outils des habitants du village, lui ne reconnaît pas ces outils. Mais on s'appuiera malgré tout sur le témoignage de l'enfant.
Alors il y a d'autres témoignages qui disent que Murat, après le crime, est allé boire des coups, donc il n'est pas riche non plus, mais il a invité des gens à boire. Il a mangé, il a payé aussi avec de la petite monnaie, mais bon...
Oui, de la petite monnaie, parce qu'en réalité, notre curé n'avait pratiquement rien dans ses poches. Ouais. Mais quand on retrouvera le cadavre, les poches de la soutane ont été retournées.
Retournées, voilà. Donc on sait que le vol est le mobile du crime. On a retrouvé aussi des débris de cartouches avec ce qu'on appelle la bourre.
La bourre, des morceaux de journaux.
Quand on chargeait l'arme par le canon, en fait, c'est ça. Alors, tout ça fait qu'on tombe sur ce Murat, ce handicapé, mais qui quand même est là et qu'on soupçonne d'avoir tué le curé. Et ce fusil, à propos, il appartient à qui, alors ?
Alors, ce fusil, il appartient à un des habitants du village qui l'a prêté à Murat pour aller à la chasse.
Et à qui Murat l'a rendu.
Voilà, mais alors, il va y avoir... Quel jour ? Lui, au départ, va dire... Donc, le crime a eu lieu le jeudi. Lui, au départ, va dire « Mais j'ai rendu le fusil le mercredi ». Puis, il ne va pas être à une contradiction près dans ses dires.
Oui, mais quand on lui dit mais que le jeudi matin, quelqu'un qui connaît très bien l'a vu avec le fusil embusqué sur le chemin...
Il va dire « Ah oui, je me suis peut-être trompé, c'était peut-être le jeudi ». Voilà. Le problème, c'est qu'un certain nombre de témoins vont... donner des témoignages contradictoires. Certaines personnes vont dire qu'il l'a rendu le mercredi et d'autres assurer que le fusil n'a été retourné que le jeudi.
Et c'est très compliqué parce que là aussi pas forcément de faux témoignages volontaires, mais il y en a certainement aussi de gens qui n'ont pas envie de contribuer à envoyer à la guillotine un enfant du pays, en gros. Alors, ce Murat va être arrêté. Rochelle va être arrêté également. On va saisir les vêtements, on va trouver des taches sur les vêtements de Murat. On va envoyer tout ça toujours
chez
le pharmacien qui lui est le seul dans le coin à pouvoir dire s'il y a du sang humain ou pas. Et qu'est-ce qu'il va dire ?
Alors, les analyses, évidemment, font sourire un peu aujourd'hui. Il va tremper le morceau de tissu dans une solution de sulfate de soude, je crois.
Il observe ça au microscope,
il s'aperçoit qu'il n'y a pas de globules. Ouais. Mais finalement, c'est peut-être parce que ça a été lavé, frotté très fortement. Rien n'est vraiment défini.
Voilà.
Pourtant, nous aurons certains journaux qui vont parler de vêtements couverts de sang.
Alors voilà, parce que la presse commence à s'intéresser à l'affaire. Alors, pour résumer, parce qu'on va faire une pause là, puis ensuite, on va parler de l'instruction et du procès. Rochelle et Murat sont arrêtés. Il y a beaucoup d'éléments un peu accablants, mais pas de preuves totales, évidemment, tangibles de sa responsabilité, de sa culpabilité, mais il y a ça. Et puis le Rochelle en question, lui, va même envoyer une lettre de dénonciation, une lettre anonyme, enfin qui restera pas anonyme très longtemps. On en parle dans quelques instants.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Ah, inutile de vous dire que la découverte du corps du curé, l'abbé Alphonse Levé, dont on s'apercevra très vite qu'il avait été tué le jour de sa disparition, le 15 septembre 1881, ça fait parler, ça alimente les rumeurs, la presse commence à s'intéresser à l'histoire, évidemment il y a tous les ingrédients, les vêtements couverts de sang, parce que là l'imagination des journalistes de l'époque est quand même très vaste, mais il y a quand même deux suspects qui ont été arrêtés par la police, donc ce Murat en question, on reviendra à lui tout à l'heure, et puis Rochelle. Alors Rochelle, lui, il a un alibi, parce que vous disiez, Françoise Bezet, qu'il est maçon, mais souvent il se loue pour des travaux dans les champs. Et ce jour-là, ce fameux 15 septembre 1881, il travaille à quoi, 300-400 mètres de l'endroit du meurtre ?
Voilà, environ. Bon,
dans un champ, quoi.
Dans la parcelle qui s'appelle le champ Sola.
Oui.
Et il est en train de faucher de la luzerne.
Depuis très tôt le matin, quoi.
Depuis très tôt le matin, et il va assurer qu'il n'a jamais quitté ce champ de toute la matinée. Oui. Que d'ailleurs, autour de lui, il y avait des gens qui pouvaient l'attester. Il y avait un petit berger qui gardait son troupeau de moutons. Et puis, un fermier qui étendait du fumier. Le problème, c'est que l'un et l'autre vont aussi dire que finalement, ils n'ont pas toujours été à surveiller Rochelle et qu'il a pu s'absenter demi-heure sans qu'ils s'en aperçoivent.
Ouais. Alors, pourquoi Rochelle, tout de suite, a été mis dans les suspects de... Parce que Murat, on comprend, il avait été vu, il avait un fusil, mais Rochelle...
Rochelle aussi s'est promenée autour du...
C'est parce qu'on a dit qu'on l'a vu avec Murat...
Et puis, il y a eu deux témoignages qui ont vraiment orienté... vers ces deux personnages. Tout d'abord, Rochelle aurait dit dans un café où on lui disait « Mais bon, tu travailles pas, ben, tu devrais chercher le curé. » Le curé, c'est pas la peine de le chercher. Il est bien caché, on ne le retrouvera pas.
D'accord, donc ça, effectivement, élément à charge.
À charge.
Et puis, il y a une femme qui a entendu une conversation entre les deux.
Il y a une jeune servante qui lavait son linge dans un trou d'eau. Et elle a vu Rochelle et Murat. Eux ne l'avaient pas aperçu. Ils étaient en train de comploter, si on veut. Elle a entendu quelques mots. Il était question de cartouche, il était question de chansola.
C'était avant le jour de la disparition.
C'était la veille.
La veille.
Et quand ils se sont aperçus qu'elle était là, elle a fait tomber son battoir. Donc ils se sont aperçus qu'elle était là, ils l'ont menacée. Ils lui ont dit, mais on pourrait te pendre à un chêne pour t'enlever l'idée
de raconter ce que tu as entendu.
Bon, évidemment, elle a été très effrayée. Et lorsqu'elle a donné ce témoignage, ça a vraiment orienté l'enquête autour des deux hommes.
Alors, il faut dire qu'après, ils sont emmenés à Bourges, non ? Assez rapidement, quand même.
Non.
Une fois qu'ils sont arrêtés, non ? Qu'est-ce qui se passe ?
Non, ils sont d'abord emmenés à la gendarmerie, qui est à Saint-Martin. Des champs, c'est la gendarmerie de Sancergue. Bon, c'est compliqué.
Ils sont interrogés, mais après, ils vont être incarcérés parce qu'ils sont inculpés, comme on disait à l'époque, d'assassinat et de complicité d'assassinat.
Alors, quand ils arrivent justement à la gendarmerie de Saint-Martin-des-Champs, est arrivée à cette gendarmerie une lettre, dite lettre anonyme. Voilà. Bon, dans un français très difficile à lire, pleine de fautes d'orthographe. Quand ils arrivent, on parle immédiatement à Rochelle de cette lettre. Parce qu'on suppose... Alors, cette lettre, en effet, dénonce le jeune boiteux. et son complice, le cordonnier du village. Alors, on présente cette lettre à Rochelle, alors là, il fait aucune difficulté pour dire que, bah oui, c'est lui qui l'a écrite, il récite même tout ce qu'il a écrit, pas de problème, voilà. C'est lui qui l'a écrite.
Et alors, le malheureux complice supposé, lui, il n'a jamais quitté son échoppe.
Voilà, alors,
il y a,
bon,
il y a
Rochelle,
des témoignages qui viennent le conforter.
Rochelle est obligée de trouver un complice, si c'était Murat, parce que Murat ne pouvait pas traîner le corps.
Alors voilà, parce qu'on est sûr que le corps du curé a été traîné, on est même sûr qu'il a été dissimulé après le meurtre, mais qu'on est revenu le chercher, qu'il a fallu le sortir de ce trou et l'amener à l'endroit où on a creusé la fosse dans laquelle on l'a trouvé. Donc ça, c'est clair que Murat peut pas faire ça tout seul.
Voilà.
Donc il fallait un deuxième homme. Voilà.
Mais le fameux cordonnier n'a pas quitté son échoppe de toute la matinée du 15. Il y a des témoins.
Voilà. Ce qui renforce quand même les certitudes, en tout cas du juge, hein, qui se pose pas trop de questions et qui sait que on a arrêté les responsables. Alors on va faire une pause, c'est la dernière dans cette émission, puis on va parler du procès qui se tient à Bourges à peu près un an plus tard.
Trois mois,
parce que on était en septembre 1881 et effectivement.
C'est en janvier 1882.
82, ça allait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Vous voyez, déjà, je me disais un an, oh c'est rapide. Non, c'était trois mois. Et là, on va vous raconter ça avec Françoise Beuzet. On a dans le box deux accusés qui nient leur participation et qui s'accusent mutuellement d'être l'assassin du curé.
L'heure du crime sur RTL.
Et la une de notre émission, le meurtre de ce curé, l'abbé Alphonse Levé. On est dans le Berry, dans le Cher, en 1881, le 15 septembre 1881. Et ce malheureux curé de campagne va être assassiné par deux gars du coin, quoi, hein, finalement, parce que tout le monde les connaît, Murat et Rochelle. Le mobile, bah, c'est l'argent, mais comme souvent dans les faits divers, l'argent, il n'en avait pas. D'habitude, il avait des pièces d'or dans sa poche qui montrait à tout le monde parce que ça l'amusait. Bah, ce jour-là, il n'y avait pas de pièces d'or, donc il est vraiment mort pour rien, avec deux personnes qui, vont voir leur vie s'arrêter parce qu'ils vont être condamnés. Alors, non pas à mort, d'ailleurs, mais aux travaux forcés à perpétuité, parce qu'on va leur trouver des circonstances atténuantes et ils finiront leur vie au bagne de Nouvelle-Calédonie. On vous raconte tout ça à l'occasion de la publication du livre de mon invité Françoise Beuzet, Meurtre d'un curé, donc aux éditions La Buinotte. Et c'est, si vous me permettez de vous faire rougir, c'est pas grave, hein, ça se voit pas à la radio, mais c'est vraiment un livre extrêmement réussi, parce que il y a vraiment l'histoire de cette enquête qui est un formidable thriller de l'époque, hein, évidemment, mais en même temps, on est dans cette ambiance qu'on a totalement oubliée, avec des personnages, des réflexes, une atmosphère absolument formidable. Je vous dis que c'est à cause de ça qu'on vous a demandé de venir parler de l'histoire. Alors là, on est en janvier 24, 25 et 26 janvier 1882, Palais de justice de Bourges, la cour d'assises se réunit, on va juger donc Murat et Rochelle, et on refuse du monde.
Oui, il y a une foule
considérable.
Oui, une foule aux portes du palais de justice. Le président va même être obligé de faire évacuer la salle parce que la foule a envahi
les bancs des témoins.
Des jurés. Il y a vraiment la foule. C'est un peu le théâtre.
Alors c'est à cause de la presse aussi, parce qu'il y a la presse locale que vous avez beaucoup consultée, je suppose, pour le livre. Et il y a aussi la presse nationale.
Il y a aussi la presse nationale. Il y a par exemple le journal Le Temps qui dit que cette affaire passionne les esprits.
Ouais. Le Gaulois, je crois.
Gilles Blas, Le Figaro aussi.
Alors donc, tout ça, alors que c'est un peu chronique d'une condamnation annoncée, ils ont des avocats, qui sont des avocats d'ailleurs talentueux, mais on va parler
d'un tournoi d'éloquence.
Voilà, tournoi d'éloquence, ils font ce qu'ils peuvent, les malheureux. Il faut faut dire que les familles des deux accusés sont absolument dévastées par l'affaire, le grand-père notamment.
Le grand-père, c'était quelqu'un qui a 80 ans et qui voit vraiment le déshonneur tomber sur sa famille, il est bouleversé. Ouais. D'ailleurs, il mourra peu de temps après.
Et puis, alors, on a mis soigneusement un gendarme entre Murat et Rochelle parce qu'il aurait arrivé pendant l'instruction de se taper dessus. Il s'insulte et il nie farouchement chacun être l'auteur du crime.
Oui, donc même pendant le procès, il y aura un moment où ils vont s'insulter, se traiter de lâche, de menteur, et Rochelle a eu envie de bondir sur Murat. Bon, le gendarme l'en a empêché, évidemment.
Alors, les témoins viennent, on a parlé de ces témoignages, évidemment. Alors, il y a 12 jurés, je crois, à l'époque.
12 jurés, des hommes, évidemment.
Que des hommes, oui, les femmes n'ont pas le droit d'être jurées à l'époque.
Non.
Bon. 12 jurés, plus 2 jurés suppléants au cas où. Les avocats vont s'apercevoir d'ailleurs à un moment que un des jurés a parlé au président...
Au juge de paix, qui voulait avoir... Bon, ce juré voulait avoir quelques renseignements façon dont le curé avait été assassiné.
Oui, voilà. Mais enfin, ça n'a pas été retenu par la Cour de cassation plus tard. Qu'est-ce qui fait qu'on leur a accordé des circonstances atténuantes?
Alors là, je me pose la question.
Oui, parce qu'ils risquaient la guillotine. Enfin,
ils risquaient la guillotine. Oui. Bon, ils sont inculpés d'assassinat avec complicité, avec vol. Donc normalement, c'était la guillotine. Mais ils ont eu des circonstances atténuantes. Oui. Alors, est-ce la personnalité du curé qui finalement tentait un peu le monde en montrant ses pièces d'or? Est-ce le fait que, par exemple, Murat... Bon, ben c'est vrai que c'est un pauvre gamin qui a été malmené par la vie. On est handicapé, mal aimé. Est-ce que c'est cela? Non, je ne sais pas.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, il y a quand même 5 ou 6 heures de délibération.
Trois heures de délibération.
Ah bon, 3 heures, vous voyez, tout augmente dans mes souvenirs. Et leur destin, c'est quoi? Alors, condamnés aux travaux forcés à perpétuité,
ils sont envoyés en Nouvelle-Calédonie. Mais ils vont bénéficier de remises de peine. En réalité, Rochelle n'en bénéficiera pas.
Oui, il va mourir sur place.
Il va mourir en Nouvelle-Calédonie en 1906. Murat, lui, avec plusieurs remises de peine, sera libéré en 1911. Et j'ai trouvé dans les archives d'Outre-mer qu'il était décédé en 1926. Alors, bon, je me suis demandé s'il était rentré en France. Je n'ai trouvé nulle part trace de son décès. Et puis, quelqu'un qui a fait des travaux sur les forçats m'a dit, oui, on les libérait, mais on ne leur donnait pas le billet de retour.
Non, ils étaient devenus relégués. Ils n'avaient pas le droit de retrouver le territoire, territoire national. Qu'est-ce qui vous reste, vous, de cette plongée profonde dans cette affaire criminelle?
Alors, bon, il me reste quand même un doute. Un doute parce que ces deux personnes n'ont jamais, jamais avoué. Et on sait qu'à l'époque, les interrogatoires étaient parfois musclés. Qu'il n'y a pas de preuves tangibles de leur culpabilité. Que les témoignages sont sujets à discussion, certains. Oui. Bon, mais malgré tout, le fait qu'ils se soient continuellement rejeté la responsabilité laisse supposer qu'ils étaient coupables. Je laisse le lecteur se faire sa propre opinion.
Eh ben, je vais vous dire, ça marche. Parce que moi, l'élément qui m'a beaucoup frappé dans le récit, c'est quand on va trouver dans la poche de Murat, on lui retire ses vêtements, évidemment, pour les analyser, les expertiser. Dans la poche, on va trouver non pas des plombs, mais des morceaux de ferraille qui ont été, obtenu en fragmentant un élément métallique, et on va trouver dans la tête du curé non pas des plombs mais des éléments métalliques qui sont les mêmes que ceux qui sont dans la poche de Murat quand même, quoi.
Voilà, mais est-ce que n'était pas assez fréquent que les chasseurs fassent ce genre de choses, étant donné qu'on est dans une région où il y a eu un haut fourneau et où on retrouve des traces métalliques, des déchets métalliques?
Voilà, eh bien, c'est comme dans les bons feuilletons, on ne saura jamais exactement. Et puis maintenant, voilà, il y a prescription. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci infiniment, Françoise Beuzet. Je rappelle le titre de votre livre, Meurtre d'un curé, 1881, autopsie d'un crime en Berry. Ça vaut vraiment le détour, je vous le conseille. L'émission est maintenant terminée. Dans quelques instants, vous aurez des infos comme tous les jours. Et après, votre rendez-vous avec Flavie Flamand.